Nous sommes Daf Mem Bet Amud Aleph, ou plutôt Mem Aleph Amud Bet, tout en bas. On va commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lignes, 8 lignes avant la fin. Tano Rabanan, Achal Tzali Mibodiyom, un homme qui a mangé du Tzali. Donc, qu'est-ce que c'est Tzali? Du Griyad. Un homme, il a mangé du Griyad Mibodiyom. Chayav, il est chayav malkut. Ou kezaït na mishecha shecha, s'il a mangé un kezaït moitié grillé à la nuit, chayav, il est aussi chayav. Alors, tzali, c'est sûr, manger na le soir, c'est marqué dans la Torah, al tochl menuna. Le soir, on n'a pas le droit de manger na. Mais qu'on n'a pas le droit de manger tzali mi bodium, c'est pas marqué clairement dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah qu'il faut manger tzal, il faut manger grillé à la nuit. Et je déduis qu'il ne faut pas manger le jour. Mais ce n'est pas marqué, me fourrage dans la Torah, ne mange pas de grillé le jour. Oui. Pourtant, la Braïta nous dit que ceux qui mangent grillé le jour, il est chayav malkout. C'est le chidouche de la Braïta. Alors, la Braïta nous dit, ou la Gemara nous dit plutôt la Gemara, que tani tzal idum yedena. Le tzali, il est comparé à na. Ma na belav, comme le na, le soir, le demi-gris et le soir, il y a un lav. Af tzali belav, mange tzali le jour, aussi un lav. Alors, on va te montrer, mais non. Mishlomena, ktival tochle mimenuna. Vis-à-vis de ne pas manger na, c'est marqué dans la Torah, al tochle mimenuna, tu n'as pas le droit de manger na. Et la tzali minalan. Mais qui t'a dit qu'on n'a pas le droit de manger grillé le jour? Car il est marqué, va achlou et abassar balaïla hazé. Vous mangerez cette viande bien grillée, la nuit. Donc on fait une déduction. Balaïla in, bayom lo. Le jour, la nuit, oui. Et le jour, vous ne mangez pas. Alors le Gemara demande, mais haï, cette déduction, la avaba mechlala sehu. C'est une interdiction qui est déduite par une formule de mitzvot asei. Mitzvot asei de manger grillé le soir. Un lave qui est déduit par une formule de asei, ça donne une interdiction par une puissance de asei, mais ça ne donne pas une interdiction d'une puissance de lave. Et donc, il n'y a pas de lave. Et donc, il n'y a pas de malkout. Comment tu peux dire qu'il y a un malkout pour à faire un assez, il n'y a pas de malkout. Un homme qui ne met pas les tefilines, il n'est pas réav malkout. Un homme qui ne prend pas le loulav, il n'est pas réav malkout. Un homme qui transgresse de ne pas écouter le chauffard, il n'est pas réav malkout. Il y a une mitzvah, tu es obligé d'écouter le chauffard. Si tu n'écoutes pas le chauffard, tu fais un avéra de ne pas écouter, mais on n'est pas réav malkout. Alors ici, la mitzvah, c'est de manger grillé le soir. Donc j'ai déduit que je n'ai pas le droit de manger grillé après-midi. D'accord? Mais pourquoi c'est réav malkout? Amagavris de Gavris lui dit Hamani Rabbi Yehuda. Ce Tan est Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il a ce Rabbi Yehuda de spécial? On va le découvrir. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit de Tan? On a vu Shor, Vase, Sarua, Vekalut. Shor, un taureau, Vase, un brebis, Sarua. Sarua, un membre, il est plus grand que l'autre membre. Un pied, il est plus grand que l'autre pied. Vekalut. Ou que les sabots ne sont pas fendus, ils sont collés. Comment c'est possible? Un taureau, il a des sabots. Un taureau, il a des sabots qui sont
fendus.
Comment le taureau, il peut avoir des sabots calottes? Une déformation. Il est né avec une déformation. Alors, ça le rend. Ah, oui. Non, ce n'est pas treifa, oui, mais il ne peut pas le faire comme korban, oui. Mais kalout, c'est une déformation des pieds. Nedava taseoto, tu peux le offrir comme nedava, ça veut dire offrir au Bet HaMikdash, mais pour le misbeach, lo yiratse, ou le korban, lo yiratse. On ne peut pas faire un korban au misbeach, parce qu'il a un défaut. Mais nedava taseoto, tu peux le offrir au Bet HaMikdash, comme on peut offrir un âne aussi. Tu veux offrir un âne, tu peux offrir un âne au Bet HaMikdash, mais pas pour le misbeach. Pour des choses pures. Mais comme Anne, comme pour le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va faire le Beth Amikdash avec?
Pour
Ils vont le vendre.
transporter.
Ils vont le vendre, hein, et après, avec l'argent, ils vont acheter un corban. Alors, donc, on fait une dracha. Nedava, tassé auto. Tu peux le faire comme Nedava. Auto. Qui c'est auto? Lui, ce qui a un défaut. Un short, un C, qui ont un défaut, et ils sont disqualifiés du Mishbeach. Alors, tu peux l'offrir au Beth Amigdash, auto. Auto à ta matfis, le Beth Kabaït. Via ta matfis, tu es mimim le Beth Kabaït. Auto, celui à qui un défaut, à ta matpis, ça veut dire tu peux le rendre à Hekdesh, le Beth Kabaït. L'expression Beth Kabaït, c'est un proverbe. Bedek. Bedek, c'est-à-dire un trou. Beth Kabaït veut dire un trou dans la maison. C'est une formule. Quand un homme, il a une maison, elle est belle. Après 5 années, 10 années, il y a un trou ici, un trou ici. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'apporter un Roumain ou un Polonais. Il amène du plâtre, hein, et il va boucher les trous. C'est-à-dire une rénovation. Boucher les trous, c'est une rénovation. S'occuper de la maison qui risque de tomber en ruine. Bon, c'est une façon de parler. Maintenant, il y a au Beth Amigdash. Il y a beaucoup de choses. Le Beth Amigdash a besoin d'argent pour rénover le Beth Amigdash ou pour apporter des corbanotes s'il manque. Alors, on dit, tu peux rendre à Hekdesh. L'animal qui a un défaut, tu peux offrir au Beth Amikdash pour Beth Kabaït. Il y a ta matpis, t'es mimim le Beth Kabaït. Mais si tu as un animal qui n'a pas de défaut, et un homme il dit, je ne veux pas faire de lui un corban, je vais l'offrir au Mizbeach, je vais l'offrir au Beth Amikdash comme on offre un âne. J'ai un âne de 1000 euros, j'offre au Beth Amikdash. Ils vont le vendre, hein? Après, ils vont vendre un autre, ils vont acheter un autre corban avec, ou ils vont réparer les Beth Amikdash, ils vont faire une rénovation. Non, mais il a un taureau, il n'a pas de défaut. Il dit, je ne veux pas qu'il monte sur le Mizbéach, ça me gêne. Moi, je vais l'offrir qu'au Beth Kabaït et qu'il le vend et qu'il utilise l'argent. Et bien, on n'a pas le droit. Parce que du moment que ton taureau n'a pas de défaut, tu peux le faire comme Mizbéach, et Mizbéach, c'est plus. Avoir le schroud pour un animal de monter sur le Mizbéach, c'est plus qu'être vendu et que la valeur, elle est donnée. Donc, du moment que ton taureau, il n'a pas de défaut, si tu le rends Hekdesh, rends le Hekdesh au top, pas au demi-Hekdesh. Beth Kabaït, c'est kilou demi-Hekdesh. Mizbéach, c'est plus. Tu peux avoir plus. Pourquoi tu te contentes avec moins? Le roi, la Gemara veut nous dire que si un homme, il a un enfant, il peut faire il peut faire de lui plus. Il ne faut pas se contenter de lui, de moi. S'il y a un bras plus que l'autre bras, un pied plus que l'autre pied, le Mizbéach n'accepte pas. Alors tu le fais Beth Kabaït. Mais s'il a les deux bras bien, les deux pieds bien, mette comme corban. L'éducation des enfants aussi. Pas tous les enfants ils peuvent être sur le Mizbéach. Pas tout le monde peut être le top. Il y a des enfants qui sont moyens. Alors, ce qui est moyen, il est moyen. Mais si tu as un enfant qui peut être au top, pourquoi tu te contentes? C'est dommage.
Ah,
Mika,
excusez-moi. Là,
oui.
il est, comment dire, quand l'animal il a un problème, d'accord? L'animal il a un problème. Il peut le donner pour
Bête
l'entretien.
cabaye.
Beda Kabaït.
Ouais.
Mais non, un animal qui n'a pas de problème, il peut pas le donner en Beda Kabaït.
C'est assourd de donner.
Donc là c'est un racé. C'est une misvat assez.
Ouais.
Alors, où on répond à la question qu'on a vue tout à l'heure?
On n'a pas terminé.
On n'a pas
On n'a
terminé.
pas encore terminé.
Pardon.
Mikan Amrou, d'ici on a appris, Kol hamat pist mimim le bed kabait, au verbe assez. Chacun qui est matpis, chacun qui est magdish, tamimim, un animal tamim, pour le bed kabait, au verbe assez. Il a transgressé le mitzvot assez. Parce que la Torah nous dit, assez, ça veut dire un lave, avant Michelal assez. El yala, assez. Pour le moment, on a preuve seulement qu'il a transgressé assez. Belot assez minaïn, mais qu'il transgresse un lot assez. Donc il a chaya malkout, minaïn d'où je sais. Talmud Lomar, c'est marqué en Torah, va y d'aber Hashem, El Moshe l'émor. Où c'est marqué Vaïdaber Hashem Moshe l'émor? Où c'est marqué Shor Vaste Saru Abakalut? Moi, je vois ici, c'est dans Vaïkra Kavbet. C'est quel parasha?
C'est Darimor.
Quoi?
C'est Darimor. C'est juste avant la parasha des fêtes. Juste avant la parasha des fêtes de Shor Reseboez.
Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette paracha. C'est quand déjà? C'est en été, en hiver,
Cette semaine.
Oui, c'est la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine.
Quoi?
La semaine prochaine. Et mort, c'est la semaine prochaine. Et puis, on l'a entendu à Pessah. Enfin, on l'a entendu, on l'a lu.
Pardon. N'importe quoi, moi.
Cette semaine-là, c'est demain, après-demain, c'est
Acharimot.
Et le Shabbat après, c'est Emor. Alors, donc, cette parasha commence comment? La parasha de Shor Vaseh Saru Avakalut. Et comment ça va être d'abord Hashem et Moshe les morts? L'imed, alcool à parasha Kula, cette intronisation, va être d'abord Hashem et Moshe les morts. L'imed nous enseigne alcool à parasha Kula pour tout ce passage. Shihi Belot Haase, que si on n'écoute pas mot à mot ce qui est marqué, on transgresse un lav, divrei Rabbi Yehuda. Alors, ça veut dire quoi? Et d'abord, Hashem, quand il est marqué dans la paracha, un lav haba michlal asei, il est marqué une certaine interdiction, mais pas en langage de lav. Mais si le sujet commence avec le verset, et d'abord, Hashem, le Moshe les morts, ce verset, il a une puissance de transformer toutes les interdictionnimes de cette paracha en lav, en achayev malkout. Alors, amarlo, rebi le bar kapara. Rabbi demandait à Bar Kappara, Maï Mashma, comment ça fonctionne? Quel est le sens de Rabbi Yehuda? Comment dans la Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, comment Rabbi Yehuda il a déduit que c'est un lav? Amarlo, Bar Kappara, il a répondu, Dirtif, car il est marqué les morts. Le mot les morts est un mot composé. Lo Nehemar Bidvarim. C'est un lo, un nom Nehemar. Était dit Bidvarim dans ces choses-là. Vaïdaber Hashem el Moshe, Dieu disait à Moshe, les morts. Ça veut dire lo, Nehemar, lo, amar. Les morts, c'est lo, amar. Un lo a été dit. Ces interdictions qui sont dans cette paracha, c'est un lo. Donc on est chayav malkout. Beirav Amri, dans la Yeshiva de Rav, on a dit les morts, ça veut dire lav amour. Un nom a été dit. Quelle est la différence ici entre la réponse de Bar Kappara et les paroles de Rav? Bar Kappara, il dit les morts, c'est-à-dire lo ne'emar bidvarim. Un nom a été dit. Et l'autre, il dit lav amour, un lave a été dit. Les rois, c'est la même chose. D'accord. Maintenant, comment ça répond à la question? Maintenant, on va revenir à ce que Hervé a dit. Nous avons dit que celui qui mange la veille de Pessah un corban Pessah grillé, il a transgressé un issur assez, il a même transgressé un issur lave. On avait dit, mais ce n'est pas marqué un lave, c'est marqué qu'un assez. Alors, tu dis, c'est Braïta et c'est Rabiuda. Parce que cette histoire de Tzali commence avec Vaïdaber Hashem Moshe les morts. D'abord, il marquait Vaïdaber Hashem Moshe les morts et toute l'histoire, vous allez manger le Tzali Ba'erev le soir. Donc, je déduis et pas l'après-midi. Et comme la passo commence à Vaïdaber Hashem Moshe les morts, le fils de Shita de qui? De Rabbi Yehuda. Le fils de Rabbi Yehuda, quand c'est marqué les morts, alors ça veut dire qu'il y a un lave pour ce qui est interdit. Alors, on peut poser la question, le fils de Rabbi Yehuda. Par exemple, la paracha des tzitzit. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Non, ce n'est pas marqué Vaïdaber, c'est marqué Vaïomer Hashem Moshe les morts. Peut-être c'est pour Vaïomer aussi. Vaïomer Hashem el Moshe les morts, Barbera Ménésra et Martelem, Vasulem tzitzit. Tu dois faire les tzitzit. Alors donc, si on met Arba Kanfot et on ne met pas les tzitzit, on ne va pas les mitzvot assez. Alors, est-ce que le fils Rabbi Yehuda, on est Chayav Malkout? Un homme qui mettra quatre coins, un habit de quatre coins, il ne met pas les tzitzit. Est-ce qu'il a transgressé un lave, le fils Rabbi Yehuda? C'est un chidouche. Peut-être c'est seulement quand c'est marqué Vaïdaber, pas quand c'est marqué Vaïomer. Bon, alors, on va continuer. Tani Chada, Meitash Misho Shel Nachtom.
Pour le Corban, c'est marqué Vaïomer aussi.
Je n'ai pas entendu.
Pour le Corban, c'est marqué Vaïomer.
Tu es sûr?
C'est marqué Vaïomer Hachem El Moshe Vel Aaron les morts.
Mais qui me dit qu'on parle d'ici?
Ce que vous avez dit tout à l'heure.
Mais non, mais il faut chercher le verset Vachlou et Tabassar Balaïla Hazé. On va regarder. Vachlou et Tabassar Balaïla Hazé. Ouais. Donc c'est marqué Vaïomer. D'accord. Donc ça marche même sur Vaïomer. Alors on peut poser la question. Alors Tzitzit, il est marqué que si tu mets un habit avec quatre coins, tu dois mettre un Tzitzit. Donc ceux qui ne mettent pas les Tzitzit, ils aiment battre les mitzvot assez. Maintenant, est-ce que le Khayab Malkout? Il s'avère que non. Ça, mais ça fonctionne comme ça. Il y a assez et il y a l'avaba michlal assez. C'est-à-dire, la Torah nous dit, si tu mets un habit des quatre coins, alors, sous le hem tzitzit. Tu mets les tzitzit. Ceux qui mettent un habit des quatre coins, ils ne mettent pas les tzitzit. Il fait un bitul mitzat assez. Il a raté mitzat assez. Mais il n'a pas fait un lavaba michlal assez. Lavaba michlal assez, c'est un peu plus fort. Et quand la Torah nous dit, tu dois manger ve'achlou et tabassar balayla hazé. On a fait une dracha. On a fait une dracha balayla in bayom lo. Tu dois le manger la nuit. La nuit et pas le jour. Il y a une interdiction de manger le jour. Tu manges cette viande que la nuit et pas le jour. Donc, le jour, je n'ai pas le droit de manger. Ça, on appelle lav haba michlal asei. Et c'est cela qui est rehaussé grâce à Vaïdaber Shel Moshe les morts. Il est rehaussé pour le transformer en lave. Mais dans les tzitzit, c'est marqué, tu as une mitzvah de faire des tzitzit. Une mitzvah de faire des tzitzit. Si tu ne mets pas les tzitzit, tu as raté la mitzvah. C'est interdit de rater la mitzvah. Mais c'est un bitou l'asei. Mais ce n'est pas un lave à Bamichlal l'asei. On n'a jamais entendu que les tzitzit, c'est un lave à Bamichlal l'asei. C'est sûr que c'est comme ça. Il y a beaucoup de mitzvot que si tu ne le fais pas, c'est très dommage. Un bitul mitzvah, c'est assourd. Mais ce n'est pas un lave avant Mechlal Asei. Lisons Tosfot, vous avez le petit Tosfot mignon en haut, les morts. L'imed al kol aparsha shi belav. Ça nous enseigne sur tout ça qu'il s'agit d'un lave. Nire le ril dit Dahain ou daf kabahanech dvarim dit bou lave abba Mechlal Asei. Avashar dvarim lo. Quand on dit que c'est transformé en lave, c'est seulement quand il y a un lave avant Mechlal Asei. Mais quand il y a un simple Asei, dans ce cas-là, ça ne se transforme pas en lave. C'est que quand il y a un lave avant Mechlal Asei. D'accord. Alors, on va continuer la Gemara. Meitash Misho Shenachton. Qu'est-ce qu'on avait dit que l'eau que le boulanger a utilisée, qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? On doit le jeter, on doit le verser. Yishapech, il faut verser. Tanichada, il y a une braïta qui dit Shofrin b'makom midaron. On le verse dans un endroit penché pour que l'eau s'écoule. Ven shofrin b'makom ha'eshboren. On ne le verse pas dans un endroit où l'eau se collecte. C'est-à-dire, si tu as un trou dans la terre et tu verseras l'eau dedans, l'eau y sera collectée. Et quand l'eau y sera collectée, il sera longtemps sur le chamet, sur les bricoles. Ça va devenir chametz. Si tu verses l'eau dans un endroit où ça coule, donc comme ça coule, l'eau va partir. Et après, la pâte va rester sans eau. Il ne peut pas devenir chametz. Mais si c'est comme Eshboren, Eshboren, c'est-à-dire que la terre est cassée, tu as un trou dans la terre parce que la terre est cassée et l'eau il va rentrer dedans, ça c'est assur. Betaniaïda, on a un autre braïta. Chofrin b'makoma Eshboren. On peut lui verser là où la terre elle est coupée. Il y a une contradiction. Lokashe, ce n'est pas un kushia. Ha de nefiche de kavu. Ha de nefiche. Une fois on parle de nefiche, il y a beaucoup d'eau. Un grand trou et beaucoup d'eau. De kavu. Alors là, ça va rester bloqué. L'eau va rester bloquée dedans et ça va devenir chametz. Mais ha de l'eau nefiche de lokavu. Mais une fois on parle qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, de l'eau cave, ça va pas être stagné parce que le peu d'eau va rentrer dans la terre et ça va disparaître. Donc, on n'aura pas le temps de le rendre chametz. Amar Rav Yehuda, il dit, Isha, une femme, l'eau talouche, elle est bemaim shelanu. elle n'a pas le droit de pétrir les matzot seulement avec de l'eau chez l'anou. Darsha Rav Matna bepapunya. Alors Rav Matna, il a dit cette halakha de Rav Yehuda dans la ville de Papunya. Bon, ce n'étaient pas des grands goronim, les gens de Papunya. C'était des simples, braves juifs.
C'est quoi Maïm chez l'anou?
On va découvrir. On va le découvrir tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Alors, il a fait le dracha à Papunya, le machar le lendemain, donc c'était avant Pessah. Sachez, Mouraï Barabotai, que pour fabriquer des matzot, il faut fabriquer avec Maïm chez l'anou. Le machar le lendemain, Aïtukula Almechatzbaïhu. Tous les gens, ils ont apporté leur cruche. Va tout le gabé, ils sont venus chez Rav Matna. Va m'rouler, ils ont dit, Havlan Maya, donne-nous de l'eau. Pourquoi donne-nous de l'eau? Parce que lui, il a dit, on peut faire la matzot qu'avec Maïm chez l'anou. Eux, ils ont compris, c'est quoi l'anou? C'est nous. Maïm chez l'anou, de l'eau qui nous appartient. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il faut prendre l'eau du rabbin. Le rabbin, il a la. Comme on dit, le seul droit de vendre l'eau. C'est de l'eau magique. Le rabbin, il a de l'eau magique. Il faut utiliser l'eau du rabbin Maïm Shelanu, l'eau de chez nous. Alors, ils sont venus avec les cruches. Bonjour, monsieur le rabbin. Vous pouvez nous offrir de votre eau. Marlou, il a dit, non, Anna, moi, de Maïe de Bitu Amré. Je parlais de l'eau qui a passé la nuit. Parce qu'en araméen, c'est l'eau qui passe la nuit, c'est bat, bitou. Ça, c'est passé la nuit. Et eux, ils parlaient l'araméen, ils ne parlaient pas l'hébreu. Donc, lui, il a fait la halakha en hébreu. Maïm shelanu. En hébreu, l'an, c'est passé la nuit. Bayalen sham, balayla, ahou. Il a passé la nuit. L'an, c'est la nuit. L'anou, passé la nuit. Donc, lui, parle en hébreu. Maïm shelanu. Mais eux, ils n'ont pas compris. Non, eux, ils ont. Non, le mot shelanu a deux sens en hébreu. Ou l'anou passé la nuit, ou l'anou c'est à nous. Alors, eux, ils comprenaient le mot l'anou, ça veut dire à nous. Parce que passer la nuit, on ne dit pas l'anou, on dit bat. Bat veut dire passer la nuit. Donc, il leur a dit, quand je dis l'anou, je n'ai pas voulu dire mon eau, je voulais dire maïm de bitou, l'eau qui a passé la nuit. Pourquoi il faut l'eau qui a passé la nuit? Pour que la nuit refroidit l'eau, pour que l'eau soit bien fraîche le lendemain quand on fabrique les matzot. Darash Rabba. Rabba, il a fait un discours. Qu'est-ce qu'on voit de ces petites histoires-là? Le Rabba, il parle de l'hébreu et il s'adresse à une communauté qui ne parle que de l'araméen. Ils vont mal comprendre ce que tu dis. Donc, d'ici, on apprend que quoi? Que tu parles à des ignares. Il faut traduire ce que tu dis, sinon ça va sortir des choses bizarres. Le type, il a cru, même chez l'anneau, il faut prendre l'eau du rabbin. Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Tu es dans une ville, il faut savoir parler. Peut-être c'est ça qui explique un peu. On dit que Paro, il savait parler 70 langues. Et on sait qu'il savait parler 71 langues. Alors donc, en Égypte, pour être nommé roi, il fallait connaître beaucoup de langues. Pourquoi? Pour se faire comprendre à tout le monde. Parce que l'art de la politique, c'est convaincre. Un politique qui ne convainc pas le peuple, hein, qui instaure ses lois, mais il ne s'explique pas, un manque de communication, et bien le peuple ne comprend pas. Après, le peuple se rébelle. Après, ça donne un balagan, ça donne une guerre civile, on n'écoute pas le roi. Tu es politique, tu es obligé de convaincre. Donc, la première des choses, parle dans un langage que les gens y comprennent. Donc, s'il y a des pays où il y en a quatre langues, en Suisse, il y a quatre langues. Il y a l'allemand, il y a le français, au sud, il y a les Italiens, et après, encore un petit machin. Alors, chaque truc que le gouvernement dit doit être traduit. Si ce n'est pas traduit, les gens y comprennent pas. Un mot, ils ont mal compris. Et bien, alors, donc, en Égypte, il y avait 70 langues, ça veut dire la société égyptienne, elle était composée par beaucoup de gens. Il faut pouvoir parler avec tout le monde. Norbert Lévy, il est là. Eh, docteur.
Oui, dans l'avion, je suis.
Vous êtes dans l'avion?
Oui, il n'y a pas encore démarré.
Vous êtes dans l'avion?
Oui, pour aller en Eretz.
Oui. Oui, pour le mariage de votre fille. Alors, voilà, Mazal Tov, et le Tova. Très merci. Bien. Vous êtes dans l'avion, Mamash?
Dans l'avion, Mamash. Il n'a pas encore décollé.
Et vous n'avez pas de masque?
Voilà. Si.
Voilà. Hein?
Allô? Voilà, j'ai le masque.
Voilà, maintenant il est
réglé. J'ai le masque là qui part. Ouais.
Voilà. D'accord, il faut que vous fermez aussi le truc parce que sinon on va entendre le bruit du moteur. Il faut que vous fermez le micro. Voilà, Chazak Baruch. Alors, et on est Eretz aussi, vous pouvez vous connecter. Alors, on est Eretz, il va rentrer en bidoute pendant 14 jours jusqu'au mariage de sa fille. Alors, où nous sommes? Daras Rava, Rava il a dit, Isha lotalush bechama. Une femme n'a pas le droit de pétrir au soleil parce que le soleil va chauffer la pâte. Il faut sous un toit, il ne faut pas sous le soleil. Pourquoi on dit Isha, une femme n'a pas le droit de pétrir et un homme, il a oui, un homme aussi n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Gemara, c'était plutôt les femmes qu'elles faisaient les matzot. On voit après dans la Mishnah aussi. Quand on parle de pétrir, on parle toujours pétrir les femmes. C'est le métier des femmes. Les femmes pétrissaient. Alors, Isha lo talush bechama. Une femme n'a pas le droit de pétrir au soleil. L'eau bechame chama, et pas avec de l'eau qui était chauffée par le soleil. Il faut que la pâte, le pétrissage sera fait pas sous le soleil. Il ne faut pas que l'eau a été déposée au soleil. À plus forte raison qu'elle ne sera pas déposée sur le feu, ça, c'est pas chaud. Mais même l'eau qui est déposée au soleil aussi, ce n'est pas bon. Et pas de l'eau qui était récupérée du mouliard. C'est quoi mouliard? Mouliard, c'est le koumkoum de Shabbat en cuivre. Un koumkoum de Shabbat en cuivre. Hein? Le cuivre regarde beaucoup la chaleur. Donc même il y a plus de feu. On a cuit 10 litres d'eau dans ce mouliard. On a éteint le feu. Et même des heures après, il n'y a plus de feu. Cette eau, elle est toujours tiède. Alors, l'eau que tu as récupérée des mouliards, ils ne sont pas aptes pour faire des matzot. Parce qu'il y a un peu de chaleur dedans et ça risque de faire monter plus vite. Il faut prendre toutes les précautions pour que ce n'est pas chametz. Il ne faut pas lever la main du four. C'est-à-dire, il ne faut pas lever la main de la fabrication des matzot. Jusqu'on a terminé le pain. Il ne faut pas au milieu, on fait la pâte, on pétrit et machin. Et il ne faut pas, il y a un téléphone, on va prendre le téléphone, on va aller voir et donner un biberon au bébé. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous avez commencé à pétrir, vous allez finir jusqu'à ce que tout sort du four. Voilà, tout ce qui est dans le four. Il faut tirer votre colle à pâte, toute la pâte doit être terminée. Il ne faut rien faire avant d'avoir tout terminé. Sinon, ça risque de devenir chametz. On a besoin de deux ustensiles avec de l'eau. Un qui est lié à de l'eau avec lequel on est mekatef. Mekatef, ça veut dire on asperge la pâte avec de l'eau. Quand on pétrit, des fois on prend un peu de l'eau, on ajoute un peu de l'eau pour qu'on peut mieux pétrir. Et l'autre bassine d'eau avec laquelle on refroidit les mains. Quand les mains sont devenues froides, devenues chaudes parce qu'on travaillait, il faut les refroidir. Et il faut deux ustensiles. Il ne faut pas un ustensile. Pourquoi? Parce que les mains, elles sont chaudes. Et alors, avec celle que tu... l'eau avec laquelle tu mets sur la matzot, tu ne vas pas être de l'eau chaude. Tu refroidis. Tu laves tes mains, les mains sont chaudes, tu les laves pour refroidir. Alors, cette eau devient un peu chaude. Il ne faut pas cette eau faire entrer la main pour mettre sur la pâte. Donc, il faut deux, comme ça, il y a plus de chances que ça reste froid. Iba et Lehu, les gens de la Ishiba, ou plutôt les gens dans l'avion, ils ont posé la question, Avrabela Shamahu, si elle a transgressé, elle a pétri, avec l'eau de quoi? Elle a pétri avec l'eau chaude, avec de l'eau sous le soleil. L'eau qui était sous le soleil, on a récupéré du mouliar, si Bediavad on a transgressé Mahou, est-ce qu'on peut manger leur matzah ou pas? Mazoutre Amar Moutar. Mazoutre, il dit c'est permis. Ravashi Amar Asour. Ravashi dit c'est interdit. Amar Mazoutre, Mazoutre, il dit Mina, Mine, la douche apporte une preuve que Bediavad c'est Moutar. Détanu, on avait vu. En lotetin asorin bepesach. On n'a pas le droit de faire la tita. On avait déjà dit la tita, c'est mouiller l'orge avant la mouture. On n'a pas le droit de mouiller, de peur que ce n'est chametz. Vim la tat, et s'il a mouillé, nit bakou, si ça donnait des trous, si ça donnait des fentes dans l'orge, asorim, c'est interdit. Lo nit bakou, s'ils ne sont pas fondus, mouterin, c'est permis. Donc, qu'est-ce que je vois? Que bediavad, c'est moutard. Chachamim, ils ont instauré plusieurs choses d'éloigner de l'homme pour que ce n'est pas chametz. Mais c'est le chatri, la bediavad, si on a transgressé, bediavad, c'est kasher. Ravashi Amar, non, Ravashi dit, c'est même bediavad, c'est assur. Atukulhu, chad amichit et mechitinu. Est-ce que tous vous allez coudre avec la même couture? Vous avez quoi? Vous avez une aiguille et vous allez attacher deux morceaux de tissu. Alors, tous les tissus qui sont dans la maison, tous tu vas les attacher avec le même tissu. Kulu, Khada, Mechitu, tous avec la même pointe d'aiguille, Mechitinu, vous allez tout mettre coudre ensemble. Eched Itmar, Itmar, Eched Olitmar, Itmar. Quand on avait dit Mefourash, Bediavat, c'est kacher, on avait dit, mais quand on n'a pas dit Bediavat, c'est kacher, peut-être c'est pas kacher. Donc, vis-à-vis de l'étita pour le Sorim, ça, c'est un din la khatrila. Bediavad, dans la fin, c'est pas grave. Mais utiliser l'eau chaude, c'est beaucoup plus grave. L'eau chaude, ça favorise, et même bediavad, c'est assur. Donc, le fils Ravashi, c'est assur. Et comme qui reste là à la khat, comme Azoutra ou comme Ravashi? Je vois ici les petites pointes, c'est sur Zayn, sur Marzoutra. On dirait que la khat, est comme Marzoutra, c'est un khidouche. Marzoutra et Ravashi, comme qui est là à la khat? Comme Azoutre, pas comme Ravashi, très douche. Alors, on a terminé le Pérec. On fait quoi maintenant, Rabotai? Le troisième, on a déjà commencé. Alors, on saute pour le quatrième. On va faire un saut pour le quatrième Pérec, d'accord? Alors, c'est Dafnoun.
Comment? On fait quoi?
On fait le quatrième Pérec.
Quatrième, d'accord.
Quatrième. Alors, c'est Dafnoun. Alors, vous avez une Gemara Psachim. Alors, on va d'Afnoun. Makom Shenahagou. Alors, on attaque. Hervé, il faut fermer. Il ne faut pas oublier de fermer, Hervé. Alors, Makom Shenahagou. Dans une ville où ils avaient la coutume. La Asot Melacha Barbe Pesachim Atratzot. Dans une ville où c'est la coutume de faire un travail la veille de Pesach Atratzot jusqu'à moitié de la journée. C'est-à-dire, dans une ville, on travaille le matin, au sin. Eh bien, on a le droit de travailler. Mais comme chez Nag ou Sholo la Sot, et nos sin. Dans une ville, on n'a pas la coutume de travailler le matin. Eh bien, on n'a pas le droit de travailler. Alors, pourquoi on parle du matin? On ne parle pas de l'après-midi. Parce que l'après-midi, tout le monde, et c'est, on n'a pas le droit de travailler. RFP, c'est l'après-midi, on n'a pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire le korban Pessah. Il faut fabriquer les matzot. Il faut faire le korban Pessah. C'est un boulot, le korban Pessah. Amener le mouton. Il faut préparer les cédères, le vin. Il faut tout préparer. Parce que le vin, il faut qu'il soit prêt. Les matzot doivent être prêtes. Imaginons que quelqu'un n'a pas de matzot. Une fois la nuit est tombée, il va commencer à pétrir des matzot et fabriquer des matzot. Eh bien, les enfants, entre-temps, ils vont s'endormir. Il ne va pas faire la mitzvah du cédère. Il faut que dès qu'il tombe la nuit, il faut commencer tout de suite les cédères. Donc, tout doit être préparé avant. Donc, ne va pas au boulot. Donc, Kacham, ils ont interdit, RP sera après-midi, c'est interdit d'aller travailler. Mais le matin, c'est le matin, on peut travailler. Mais il y a certaines villes que même le matin, on ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire RP Sar. D'abord, le matin, il faut enlever les chametz. Bon, ça, c'est obligé. Et même pour les matzot, il y en a qui fabriquent les matzot le matin. Et le korban Pessah, il faut se préparer déjà avant, on achète le mouton, on regarde le couteau, que le couteau il sera bien aiguisé, etc. Donc il y a plein de choses à préparer même le matin. Mais, car ils n'ont pas interdit de travailler. Mais il y a des villes où on ne travaille pas. Maintenant, si quelqu'un habite dans une ville où on ne travaille pas, et lui, il veut lui travailler. Moi, je fais mes matzot l'après-midi, je fais les matzot hier, je ferai le Coran Pessah, mais moi, dans ma ville, on travaille le matin. Alors, eh bien, non, pas dans ma ville. Si dans ta ville, on travaille, tu as le droit de travailler. Si dans ta ville, on ne travaille pas, tu ne dois pas travailler. Il ne faut pas faire le contraire de la ville. Alors, pourquoi il ne faut pas faire le contraire? Tout le monde fait la même chose. Les gens, ils s'interdisent, tu ne vas pas. Pourquoi? Ça fout la pagaille. Un, il fait oui, un, il fait non. Ce n'est pas joli. Nous, on ne connaît pas ce monde. Chez nous, le Galout, il a remué, il a mélangé toutes les populations et toutes les coutumes.
Je suis dans une ville où on ne travaille pas.
J'entends pas.
Je suis dans une ville où on ne travaille pas, mais moi, je vends des moutons.
Je n'ai pas entendu.
Dans une ville où on ne travaille pas, mais moi, je vends des moutons.
Vendre des moutons, ça, c'est permis. Vendre des moutons. Vendre le tzorech, ça, c'est vadaï moutard. Vendre des matzot, ça, c'est permis. Ça, c'est pour le chag. Pour le chag, ce n'est pas ça, un travail. Le travail, c'est de reconstruire des maisons. Il laboure le champ. Il fait des choses. Mais ce qu'on a besoin maintenant pour la fête, ça, on peut faire. Oui. Alors pour, ça veut dire, à l'époque de la Gemara, toute la ville fait la même coutume. Il y a une coutume pour tout le monde. Tout le monde fait le judaïsme de la même manière. Si un, il est machmir, un, il est mekil, un, il fait comme ça, c'est pas très joli. C'est à notre époque qu'on vit comme ça. À notre époque, le peuple juif, il est comme ça. Parce qu'on est mélangé, on est tous, toutes les communautés sont composées par des coutumes de différentes villes. Donc, lui, il a son minag, et lui, son minag, et son minag. Donc, ça n'existait pas tellement aujourd'hui, cette histoire, c'est rare. On sera obligé d'appliquer pile. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des différentes coutumes. Mais à l'époque, normalement, ce n'était pas comme ça. Les gens, ils voyageaient moins. Ils voyageaient moins. On habitait dans un village. On habitait depuis qu'on est né jusqu'à Neftar. On habitait dans le village. Alors, si maintenant quelqu'un il se déplace, alors on verra après. Mais voilà, ça c'est jusqu'à maintenant. Pour, lisons Rashi. Makom Shenahag, vous avez Rashi. Makom Shenahag ou Atchatzot. Ceux qui travaillaient jusqu'à Chatzot, à Chatzirom, c'est la moitié de la journée. Qu'est-ce que Rashi veut dire? Mais je sais qu'est-ce que c'est Chatzot, Chatzot, la moitié de la journée. Pourquoi Rashi dit Chatzot, Chatzirom? Qu'est-ce que Rashi veut dire? Parce que le mot Chatzot, des fois, ça veut dire minuit. Dans la première Mishnah de Mesechet Barachot, At Chatzot, Tfilat Arvit, At Chatzot. Alors ici, tu aurais pu croire, il travaille jusqu'à minuit. La nuit d'avant. Alors Rashi dit, non, Chatzot, c'est pas minuit. Ici, c'est bien Chatzayom, la moitié de la journée. Donc, dans une ville, chez l'Olasot, on n'avait pas la coutume de travailler le matin. Et dès que l'on y ait tarut bimlacha, afin qu'il ne sera pas perdu dans son travail, il est capable de perdre, d'oublier, d'enlever la chametz. Rashi va expliquer pourquoi il y avait des villes qui était mahmir de ne pas travailler le matin. Ils ont instauré cette coutume pour que les gens n'oublient pas de brûler le chametz ou shrita ta pesach, pour que les gens n'oublient pas de faire la shrita du pesach, le tikkun matzah et préparer la matzah, le tzor halal pour la nuit, les mitzvah, les trois mibodium, parce que la mitzvah, c'est de préparer tout la veille, que dès le hasev maher, afin de se mettre à table vite le soir, que d'amar me perek batra. Comme on dit dans le dernier perek, et il faut faire des choses bizarres afin que les enfants ne dorment pas. Donc, pour que les enfants ne dorment pas, il faut que tu commences le seder tôt. Donc, il faut préparer tout avant. Ça, c'est la raison pourquoi certains arrêtaient à travailler même le matin. Alors, je répète la Mishnah. Dans une union, on a la coutume de travailler le matin, on peut. Dans une ville, on a la coutume de ne pas travailler le matin, on ne travaille pas. Haolech mi makom she'osin, la makom she'enosin. Ou mi makom she'enosin, la makom she'osin. Un homme qui voyage et il vient d'une ville où on ne travaille pas, il arrive dans la ville où on travaille, oui. Ou il vient d'une ville où on travaille, oui, et il arrive dans une ville où on ne travaille pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme sa ville, ou il va faire comme dans la ville où il se trouve. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah? Notnina la chumre makom sheyatza misham, chumre makom shehalach lasham. On lui met le chumrot de la ville qu'il a quittée, on lui met le chumrot dans la ville où il est allé. Alors, ça se présente comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un il habite dans une ville où on travaille, et maintenant il se trouve dans une ville où on ne travaille pas, alors il ne faut pas travailler. Tu es dans une ville où on ne travaille pas, même si c'est la première fois que tu es là. Ici, on ne travaille pas, tu te conformes à la coutume ici. Ne fais pas des disputes, ne commence pas à faire la balagane dans la ville. Ici, personne ne travaille, tu es soumis à la loi de cette ville, malgré que dans ta ville, on travaille. Maintenant, le contraire. C'est quoi le contraire? Un homme, il vient d'une ville où on ne travaille pas. Et il arrive dans une ville où on travaille. Alors, on dit, il doit être Mahmir, comme la ville d'où il est sorti. Dans sa ville, on ne travaille pas, et bien tu n'as pas le droit de travailler. Tu es né, tu vis ta vie dans une ville qui est Mahmir, on ne travaille pas, tu es soumis à cette coutume. Même si tu viens dans une ville où eux sont Mekilim, ils travaillent, toi tu t'abstiens. Tu t'abstiens. Alors, dans les deux côtés, il faut s'abstenir. Soit parce que tu viens d'une ville où on ne travaille pas, soit tu es dans une ville maintenant où on ne travaille pas, dans les deux cas, tu dois t'abstenir. Seulement, il y a ici une petite caisse qui en l'Ichora. Si je viens d'une ville où on ne travaille pas. Non, si je viens d'une ville où on, oui, je viens d'une ville où on ne travaille pas. Et j'arrive dans une ville où on travaille, oui. Il faut garder mon ancien coutume de ne pas travailler. Mais si je ne travaille pas, je fais le contraire de la ville où je suis maintenant. Tu as dit qu'il ne faut pas faire différent de la ville où tu te trouves. Mais dans cette ville, tout le monde travaille. Si moi, je ne travaille pas, je vais aller contre le courant.
Dans la ville où on ne travaille pas, il y a sûrement des gens qui ne travaillent pas non plus. Dans la ville où on travaille, dans la ville où on travaille, il y a sûrement des gens qui ne travaillent pas déjà.
Chazak. Dans une ville où on travaille, il y a toujours des gens qui ne travaillent pas. Il y a toujours des rentiers. Il y a des gens qui prennent la vie cool. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Donc, pas travailler, ça ne se remarque pas. Ça ne donne pas des disputes. Les gens ne vont pas savoir pourquoi je ne travaille pas. Ils ne vont pas dire, ah, c'est un Mahmir, une nouvelle religion. Ils vont dire, il n'a pas de boulot aujourd'hui, il ne travaille pas. Donc, ça, ça ne se remarque pas. Si il vient dans une ville où on ne travaille pas et lui travaille, ça c'est une chutzpah. Ou lui vient d'une ville où on ne travaille pas, la ville où il habite, on ne travaille pas, il doit garder cette coutume. Et il arrive dans une ville où on travaille, tu gardes l'ancien coutume. Si tu viens dans une ville où on travaille, tu aurais pu travailler, mais dans cette ville on ne travaille pas, c'est un chutzpah, tu ne peux pas travailler. Alors, on va continuer. Donc, notnina frumre makom shiatza misham. On lui met la chumra d'où il est sorti, on met la chumra là où il est arrivé. Quelle est la logique que je n'ai pas le droit de faire comme la ville où j'arrive? Pour ne pas faire un dispute, c'est logique. Ici, on perd son travail, tu ne peux pas travailler devant les gens, ça ne se fait pas. Tu peux pas, c'est fait la révolution. Mais pourquoi je dois garder la coutume de la ville où j'habite? J'habite dans une ville où on ne travaille pas. Maintenant, je suis dans une ville où on travaille, oui. Pourquoi je n'ai pas le droit de travailler? Parce que dans ma ville, on ne travaille pas. Et alors, pourquoi je suis obligé de faire comme ça? Pour ne pas me disputer avec les gens de ma ville. Mais maintenant, je ne suis pas dans ma ville. Maintenant, je suis ailleurs. Maintenant, cette année-là, je suis dans une ville où on travaille. Pourquoi je suis obligé de garder mon minhag? Donc, il y a ici un chidouche dans la Mishnah. Que celui qui habite dans une ville où on ne travaille pas, il est soumis à cette loi. Pas pour ne pas se disputer. Si la raison était pour ne pas se disputer, alors dès que j'ai sorti une année dans une autre ville, j'ai le droit. Non, c'est parce que si ici on est Mahmir, t'es obligé de Mahmir. C'est une loi que la Mishnah nous dit. Ceux qui habitent dans une ville, on n'a pas la coutume de faire ça, on ne le fait pas. Tu es soumis. Pourquoi c'est comme ça cette loi? C'est parce que la coutume est comme ça. Et pourquoi? Moi, je ne vais pas faire là comme la coutume.
Je viens d'une ville où on ne travaille pas. Et je vais dans une ville où on travaille. Ils savent que je suis un étranger dans cette ville. Ils se disent, il vient d'une ville où on ne travaille pas. Et ce qu'il fait, il change sa politique.
Non, ce n'est pas ça, le pshat. Et si les gens ils savent d'où je viens, et les gens ne savent pas quelle est la... C'est pas ça la raison. C'est pas parce que les gens dans la ville on travaille, ils vont dire pourquoi lui travaille. Non, c'est pas ça. C'est une autre loi. C'est que parce que là où tu habites, ça t'engage. Dans une ville où on fait pas telle et telle chose, tu es soumis à cette loi. Ça, c'est ta religion. D'où ça sort cette histoire? C'est pas marqué dans la Torah. On parle ici des minagim. Quelque chose qui est alpidine. La Mishnah ne parle pas. Une interdiction minadine. Il y en est respecté. Si à une ville, les gens sont trop transgressent la Torah, ben d'ailleurs, j'ai pas le droit de faire comme eux. C'est pas ça, Mishnah. La Mishnah ne s'occupe pas. Une ville où on transgresse le Shabbat. Minatora, ou Midrabanan. Un homme, il arrive là-bas. Ben d'ailleurs, il n'a pas le droit de transgresser. Ça, c'est la Mishnah, notre Mishnah ne parle pas. La Torah, les Chachamim, les Halachot, ça engage tout le monde. Ici, on parle des Minagim. C'est-à-dire que le judaïsme, il n'existe pas que les Issourim, car ils ont interdit. Il y a aussi les coutumes. On a une coutume de ne pas manger ça. On a une coutume de ne pas travailler maintenant. Pourquoi? Parce que nous connaissons les gens de la ville. Et chez nous, dans la ville, si on travaille le matin, il y a des gens qui oublient de brûler les chametz, ils oublient de préparer les matzot. On connaît les gens. Les gens sont négligents. Si tu n'arrêtes pas, eh ben, ils vont arriver derrière. Tous les minagim sont basés sur quelque chose. Il y a une raison pourquoi cette ville a pris cette coutume. La mentalité des gens de cette ville ne permet pas à travailler le matin. Donc, nos parents, nos grands-parents, ils ont instauré chez nous, on ne travaille pas Erev Pesach le matin. Maintenant, l'individu doit suivre. Tu fais partie de la ville. Tu fais comme tout le monde, monsieur. Pas pour pas se disputer. C'est plus profond que ça. Mistama, si on a instauré, Mistama, c'est toi aussi, tu es dans le bain. Pour toi aussi, ça te concerne. Ou peut-être parce que par solidarité, j'habite dans une ville, par solidarité, je dois les suivre. C'est interdit, c'est interdit. Là, on permet, je peux. Maintenant, quel est le dîner d'un homme qui change l'habitation? Il a habité ici pendant 20 ans, et après, il a habité dans une autre ville, et il veut rester dans la deuxième ville. Sûrement, il peut abandonner le minag de la première ville. Maintenant, il fait partie de la deuxième ville. Maintenant, il fait comme ici. Ou peut-être, non, s'il est dans sa ville, on était comme ça, il a reçu de ses parents, de ses grands-parents. Est-ce que les minagim de nos parents, de nos grands-parents nous obligent, ou seulement les minhag de cette ville? Pour le moment, la Mishnah ne parle pas des parents, des grands-parents, les minagim. Au moment, on parle de la coutume de cette ville.
C'est comme les minhag.
Hein?
C'est comme les minhag séfarad et ashkenaz avant. Ce qu'on fait,
pour
nous.
Quelle chose? Pour quelle chose?
Il y a des choses différentes. On avait vu pas mal de choses différentes. Et aujourd'hui, on est en France, on est tous mélangés à Ashkenaz et séfarad. Ce qu'on fait? Pour une chose, on avait vu.
Est-ce que chacun garde son minhag?
Après le lait, manger la viande, le lait après la viande, il y a des choses différentes.
Est-ce que comment faire? Est-ce que chacun y fait comme il a fait avant, ou est-ce qu'on va faire une coutume dans la majorité de la ville? Est-ce qu'on instaure la majorité? Une nouvelle ville, comment on fait? Une nouvelle ville qui est composée par deux. Si elle est composée qu'une communauté, si les gens ils partent d'une ville, ils partent dans une autre ville, ils créent une nouvelle ville. Et tous les gens sont d'une ville, ils ont tous la même coutume, ils font cette coutume. Après, un individu vient, il fait comme cette ville. Et si après, il y a d'autres, tout le monde vient jusqu'à la fin, c'est 50-50. Alors quoi? Il se réveille. Avant, il y avait ici en France, il y a 60 ans, 70 ans, 99% étaient Ashkenazim. Un Sfarad qui est venu, le premier venu, et avec que des minyanim ashkenaz. Après, plus et plus et plus. Et après, ils sont devenus moitié des sfaradim. Mais aujourd'hui, ils sont majoritaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le premier sfarad qui est venu, il a fait comme les ashkenazim. Et maintenant, sa majorité, c'est sfaradim. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se réveille l'ancien coutume. Peut-être. Peut-être. Mais vis-à-vis de quel? Est-ce qu'on parle des halakhot, des choses qu'on fait ou on ne fait pas, ou la formule de la tefila? Bon, ça on verra après dans la Gemara. Est-ce que ça existe le phénomène? Parce que les parents, les grands-parents, ils avaient cette coutume. Donc, cette coutume, on garde. Est-ce que ça... Dans notre Mishnah, ce n'est pas marqué. Pour le moment, ce n'est pas marqué. On verra après dans la Gemara après. Alors, on va continuer. Va'al yeshane Adam mipnei machloket. Alors, on tourne la page. Va'al yeshane Adam mipnei machloket. Un homme ne doit pas changer la coutume de la ville mipnei machloket pour ne pas provoquer des machloket. Il est interdit de provoquer des machloket. Et pourquoi il provoquerait des machloket? Quand on fait différent de tout le monde, ça peut amener des machloket. Pourquoi? Ici, personne travaille. Il arrive, monsieur, il travaille. Les gens me disent, monsieur, chez nous, on ne travaille pas. Ils me disent, monsieur, nous, on travaille. Non, 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 on ne travaille pas ici. Mais laissez-moi faire ce que je veux. Ah non, vous n'allez pas nous foutre la pagaille, vous allez travailler, tout le monde va travailler. Chez nous, on a le coutume de ne pas travailler. Monsieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, je fais ce que je veux. Ah, il s'est parti. Là, il s'est parti pour un machloket. Et les chachamim, ils n'aiment pas les machloket. Alors, on t'a interdit de travailler. Il existe un phénomène. La différence crée une animosité. Quand les chachamim, ils ont fait l'essai. On a fait l'essai, un il fait le contraire de tout le monde, ça énerve les gens. Mais ça énerve les gens. Tout le monde est assis dans la choule, lui il est debout. Tout le monde est debout, lui il est assis. Tout le monde est debout, lui il se promène. Tout le monde se promène, lui il se couche. Mais bon, qu'est-ce que vous faites contraire à tout le monde? Maintenant tout le monde est couché, restez couché. Qu'est-ce que tu es debout maintenant? Tout le monde est debout, lui il est assis. Ça énerve les gens. Ça veut dire que c'est une nature ou c'est pas, est-ce que cet énervement est justifié ou il n'est pas justifié? Est-ce que c'est simple, les gens s'énervent pour rien ou non? C'est un bon énervement. Il ne faut pas faire autrement que, il faut pas faire autrement que tout le monde. Il y a une idée que en Chine, c'est très fort. En Corée, c'est très fort. En Chine, tout le monde est habillé de la même façon dans les usines. En Angleterre, dans les écoles, il y a un uniforme. Tu ne peux pas être autrement. Même en Eretz, c'est aussi comme ça, un peu à l'anglaise. En Angleterre, chaque école, il a son uniforme. Les garçons, les filles. Tu te mets la chemise, le pull, le pantalon, comme ça. Un enfant qui arrive avec d'autres trucs, il arrive avec ses Adidas, il n'est pas reçu. Chez nous, notre école est comme ça. Tu fais partie. Tu ne fais pas partie, tu pars. Allez, tu vas ailleurs. On n'a pas de place pour les gens qui font à leur tête. Les Français, c'est autre chose. En Eretz aussi, c'est un peu comme ça. Est-ce qu'il est mieux que chacun fait ce qu'il veut ou qu'il y a des coutumes? Ça veut dire que ça existe, mais c'est dans des villes où il n'y a pas des coutumes fixes, que chacun fait ce qu'il veut. Ici, notre Mishnah aborde la question à savoir, il y a une coutume fixe. Tout le monde travaille ou tout le monde ne travaille pas. Point. Maintenant qu'il y a des villes où chacun fait ce qu'il veut, peut-être aussi. La Mishnah ne nous a pas dit que ça n'existe pas. Peut-être ça existe des villes où un il travaille, un ne travaille pas. Ça peut aussi exister. Alors, mais si on ne travaille pas, ne faites pas le contraire. Alors, va aller chez Adam. Quoi?
C'est une forme de discipline, les mêmes tenues, les mêmes tout. C'est une forme de discipline et de pour tout le monde. C'est une forme de discipline.
Discipline, et ça veut dire ça aide au bon fonctionnement. Tout le monde arrive à 9h. Tout le monde il a son stylo. Tout le monde il a son cahier. Tout le monde il a préparé le cours. Tout le monde il est propre. La discipline. Sa discipline, ça organise les gens et on peut mieux surveiller les gens, on peut mieux faire travailler les gens. Là, il manque de discipline. Alors, la paresse ou les farfelus, les idées farfelues, ils peuvent profiter, de faire à leur tête. Manque de discipline, ça empêche. C'est pour ça en Chine, pourquoi ça marche tellement bien? Parce que la cause de la discipline. Les gens, ils viennent tous ensemble travailler, on travaille, et on ne discute pas, on ne parle pas, on ne perd pas du temps. Tout le monde le même habit, tout le même truc.
Ils ont peur surtout.
Quoi?
Discipline, mais c'est surtout parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du régime là-bas.
Oui, mais en tout cas, la peur du régime a créé une discipline. Et peut-être les gens, ils étaient toujours disciplinés. Il y a des populations qui sont plus enclins à la discipline. Il y en a que c'est difficile à faire la discipline.
Pourquoi en France, il y a 50 ans? France, c'est 50 ans, chacun avait sa blouse à l'école et il y avait plus de discipline qu'aujourd'hui. En France, on avait tous la même tenue il y a 50 ans. C'était tous des tabliers. On ne pouvait pas à l'école sans tablier. Il y avait une meilleure discipline.
C'est la mai 68 qui a foutu tout en l'air. Quoi, vous vous rappelez encore la France avant?
Mes premières années d'école, on avait tous un tablier. 65, 66, 67.
Ben oui, moi j'avais un tablier à l'école.
C'est pour cela qu'on ne nous a pas sorti des bons élèves quand même.
Alors, donc c'est une question de discipline. Donc la Mishnah aussi. Un homme qui fait différemment des autres. Il provoque une machloket parce que les gens ils veulent la discipline. Rashi. Valisene Adam, Vigmara Parich. La Gmara pose une question. Mi makom she'en osin, le makom she'osin. Si quelqu'un voyage d'une ville où on ne travaille pas, il va vers une ville où on travaille vie. Vihu nami aliyeshene. Tu dis, un homme n'a pas le droit de changer de la ville où il se trouve. Ça veut dire velevet. Donc il est obligé de travailler. C'est tout mon travail, il doit travailler. Bah, Mart, mais toi, tu as dit, notinaf kumri makom, shiatsa mishom. On met sur lui la khumra de la ville où il est sorti. Et lui est sorti d'une ville où on ne travaille pas, donc il n'a pas le droit de travailler. Donc il va faire le contraire de la ville où il se trouve. Ça, c'est la kusha que la Gemara va demander. Alors, on va continuer. Kayot Sebu. Il y a une loi qui ressemble à cette loi. C'est quoi? Amolir perot shevi'it, un homme qui conduit des fruits de Shemitah. Mi makom shekalu, le makom shelokalu. Ou mi makom shelokalu, le makom shekalu. D'une ville où ils sont terminés, vers une ville où ils ne sont pas terminés. Une ville où ils ne sont pas terminés, vers une ville où ils sont vite terminés. Chayav leva'er, il est obligé de les débarrasser. Alors, qu'est-ce que c'est terminé? Terminé, c'est dire terminé sur le champ. Ça veut dire, d'abord, on plante. Après, les fruits poussent. Et après, ils sont mûrs. Et après, on les cueille. Et la cueillette peut durer. La cueillette peut durer un mois. Une fois que quoi? Qu'il n'y a plus rien, on a tout cueilli. Et bien, il n'y a plus rien. Ouais, ça c'est par une douche. Mais avant que tu aies tout cueilli, qui est-ce qui cueille? Toi? Mais pas que toi, les animaux aussi. Les animaux du champ, ils mangent aussi ce que les gens ils ont planté. Maintenant, il est marqué dans la Torah. Ça veut dire quoi? Les fruits de Shemitah sont permis de manger. Alors, il y a des choses qui sont permises dans la Torah. Il y a des choses que Chachamim ont interdit de manger. D'abord, je vais dire le din de la Torah. Selon la Torah, l'interdiction des Shemitah, c'est de labourer, c'est de semer et c'est de récolter. Ça, c'est ce que la Torah l'interdit. Tu ne laboures pas, tu ne travailles pas le champ, tu ne laboures pas le champ, tu n'es pas zoréa, satra, lotisra, tu ne sèmes pas, et lotiktor, et tu ne moissonnes pas. Très bien. Mais j'ai le droit de manger les fruits. Comment j'ai le droit de manger les fruits si je ne peux pas moissonner? Je peux couper d'une façon anormale, ça c'est permis. Ça veut dire qu'on ne va pas couper avec la faucille normale, on coupe avec un couteau, on coupe autrement. Quand on cueille les oranges, il y a un sécateur spécial pour couper les oranges. Et maintenant, Shmita, tu arraches l'orange. Donc, tu peux manger. Mais comment ça va pousser si je n'ai pas semé? Eh bien, ça dépend. Si c'est la semence, ça ne pousse pas si on ne sème pas. Si c'est des arbres de fruits, des fruits des arbres, eux, ils poussent, tu n'as pas besoin de semer. Donc, tout ce qui pousse sur les arbres, et je n'ai rien fait, ça pousse tout seul. La Torah, elle a dit, tu n'as pas le droit de cueillir normalement, tu dois cueillir anormalement. Mais c'est là, je cueille anormalement, et j'ai le droit de manger. C'est comme ça, là, à la fin, j'ai le droit de manger. Maintenant, ce qu'on sème, alors, si on n'a pas le droit de semer Shemitah, il n'y a rien qui pousse. J'ai rien à récolter. Mais je peux semer la sixième année. Et après, ça mûrit la septième année. Donc, une fois que c'est mûr la septième année, la Torah nous dit, tu n'as pas le droit de les couper normalement, on n'a pas le droit de cotir normalement. Alors, il faut que je suis cotir avec les chinouilles. Très bien. Mais c'est permis parce que ça a été semé la sixième année. Mais la septième année, tu ne peux pas semer. Et ce qui a transgressé, il a semé la septième année. Est-ce qu'il a le droit de le manger, Bediavad? Ça, c'est une machloquette. Ça, c'est une machloquette. Mais laissons cette machloquette. On n'a pas le droit de semer la septième année. La sixième année, je peux semer. Mais seulement quand je la récolte, il faut que je récolte avec un chinouille. Ça, c'est le dîne de la Torah. Mais Chachamim, ils avaient peur. Ils ont dit, si nous permettons aux gens de manger ce qui pousse, ce qui est semé la sixième année, et maintenant c'est terminé la septième, alors chacun, il va tricher. Il va semer la septième année, et il va dire, non, c'était sixième année, où ça poussait tout seul. Il y a des choses qui poussent tout seul. Des fois, le vent, il peut emporter, il peut importer des graines. Des fois, dans ton jardin, ça peut pousser des choses. Il y a des fleurs. Pourquoi il y a des fleurs dans les jardins? Je n'ai pas planté les fleurs, mais le vent, il apporte tout seul. Alors, là où il y a le monde d'agriculture, il y a des graines, le vent, il peut emporter, ça peut pousser tout seul. Alors, si ça pousse tout seul, ce qui est important d'après la Torah, c'est quoi? Que je coupe avec les chinois, et après, je peux manger. Mais Chacham, ils ont dit, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que chacun, il va faire son petit truc, il va semer en cachette, il va dire, c'est poussé tout seul. Donc, on avait dit, la semence, on n'a pas le droit. Les légumes, la semence, tu n'as pas le droit de manger. Sauf si on sait que ça a été semé les sixième année. Alors, il y a des choses qui poussent les sixième année et on sait que ça, c'est ça. On a mis le droit. Non. Pour la semence, on n'a pas le droit. Je me suis trompé. Pour la semence, on n'a pas le droit. Semence, on n'a pas le droit. Tout ce qui est récolté la septième année, tu n'as pas le droit de manger. Minera banane. Mais, que récolté. Mais Minatora, c'est permis de manger. Maintenant, il y a une nouvelle halakha. Tu as le droit de manger. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où il est encore dans le champ. Et pas seulement toi, tu cueilles du champ, les animaux cueillent aussi. L'uvehemtecha, velachaya sherbatsecha, tiakolt velecha. Lacha ou lavdecha, pour toi, pour toute la population et pour les animaux, tout le monde il est pareil, tout le monde peut manger dans le champ. Très bien. Mais les animaux, ils peuvent manger tant qu'il y a sur le champ. Mais les hommes, ils ramassent, jusqu'à plus rien. Quand il n'y a plus rien, tu as tout amené chez ta maison et les animaux n'ont plus rien à manger. Là, la Torah nous dit, tu n'as plus le droit de manger. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut faire le biour. Il faut mevaer. Ça veut dire quoi, mevaer? Ça, c'est un grand machloket. Rashi, le Rambam, un grand machloket. Rambam, qu'est-ce que c'est biour? D'après le Rambam, il faut les brûler. Tous les fruits que tu as récoltés chez toi à la maison, dès qu'il n'y a plus rien sur le champ, tu prendras les fruits et tu les brûles. Ça, c'est biour. Biour, shuyot, biour, c'est dire brûler. Mais là, la on ne fait pas comme le Rambam. On fait comme le Rambam. Biour, ça veut dire rendre un hefker. Ça veut dire les fruits que tu as chez toi à la maison, tu les poses dans la rue et tu dis hefker, je permets à tout le monde s'en servir. Alors tu poses dans la rue, tout le monde peut s'en servir. Toi aussi, tu peux t'en servir. Mais on peut s'en servir que du jour au jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai besoin combien de tomates? Tomates, ça pousse par terre, ça marche pas. Des fruits d'arbres. Ou avant la Takana, même les fruits de la terre, c'était comme ça. Combien de tomates j'ai besoin? 3. Alors tu prends 3 tomates. Non, mais attendez, il y a ma femme et mes enfants, j'ai 15 personnes à la maison. Alors vous avez besoin combien? 2 kilos. Alors vous prenez 2 kilos. Prenez 2 kilos. Mais pas que toi, tout le monde, tous les gens de la ville peuvent venir et peuvent s'en servir. Chacun, il prend ce qu'il a besoin pour aujourd'hui. Ça, c'est le din de Bi'ur. Alors, qu'est-ce qui se... Ça, c'est le din de Bi'ur, oui. Alors, quel est maintenant le din si dans une partie d'Eretz Israël, il n'y a plus rien sur le champ, et dans une autre partie, oui, le sud, le nord, l'est, l'ouest, ce n'est pas le même climat. Et aussi les fruits, il y a toutes sortes de fruits. Il y a des fruits qui restent jusqu'en octobre sur l'arbre. Il y a des fruits qui restent jusqu'en septembre. Il y en a qui restent jusqu'en août. Alors, chaque fruit, il a son temps de biour. Et chaque année, ça change. Alors, pour chaque fruit et dans chaque endroit, au Galil, les noix, ils sont là jusqu'en septembre. Alors, jusqu'en septembre, tu peux tout ramasser de ton champ et mettre chez toi à la maison. Il arrive l'octobre, il n'y a plus rien sur le champ. Tu prends toutes les noix et tu les poses dans la rue. Et chaque jour, tu prends ce que tu as besoin. Et tout le monde peut s'en servir. Maintenant, ça, c'est au Galil. Mais peut-être au sud, c'est pas octobre, peut-être c'est novembre. Alors eux, c'est jusqu'en novembre. Et chaque fruit et chaque endroit, il a ses lois. C'est pour ça les fruits de l'arbre, on les retisserait pendant Shemitah. Tu poses une question. Est-ce qu'on peut encore les garder chez lui ou est-ce qu'il faut les manger, mettre déjà dans la rue? On peut pas le dire au début. On peut faire dire au début, à peu près, il y a des calculs. Mais dans la pratique, après, il faut adapter d'après le metziout. Alors, ce n'est pas facile de gérer tout ça. Et à part ça, une des grandes trucs de fruits de Shemitah, les fruits sont hefker. Ils appartiennent à tout le monde. Personne n'est patron sur les fruits. Tu es patron sur ton terrain, mais pas sur les fruits. Les fruits sont hefker. Alors, comme les fruits sont hefker, chacun peut s'en servir. Personne ne peut être propriétaire. Mais comment les fruits, ils arrivent à la maison? Autrefois, les gens, ils étaient des agriculteurs. On habitait dans le village. Alors, chacun, il avait des terrains. Pendant l'année des Shemitah, je prends de mon terrain, de terrain de mon voisin. Tout est à faire, je peux s'en servir. Moi, aujourd'hui, on habite dans la ville. Alors, comment je vais faire? Il faut que je voyage pour chercher. Il faut organiser. Il faut que quelqu'un les cueille et après les amène dans la ville. Oui, il les cueille, ils amènent dans la ville. Mais ça ne lui appartient pas, il n'a pas le droit d'être propriétaire. Alors, qui est le Meshuga d'aller, il va les acheter là-bas, il va les vendre chez nous, mais on n'a pas le droit de vendre. Les fruits de Shemitah, on n'a pas le droit d'acheter et vendre. Alors, il faut gratuitement ramasser là-bas et l'amener ici. Mais qui est le Meshuga qui fait ça? Alors, il y a quelque chose qui s'appelle le Bedin. Otsar Bedin, ça veut dire le Bedin organise, les fruits n'appartiennent à personne, mais le Bedin envoie des shluchim, vous ramassez et vous les amenez, on va les distribuer aux gens. Oui, mais cette distribution, ça coûte d'argent. Il faut chercher des terrains où on n'a pas travaillé. Si tout le monde respecte Shemitah, il n'y a pas de problème. Tout le monde respecte, personne ne travaille. Mais dans un pays où certains travaillent Shemitah, certains ne travaillent pas, il faut choisir les terrains où on n'a pas travaillé. Ou éventuellement, d'après certains poskim, les goyim peuvent travailler. S'il y a des arabes, ils peuvent travailler. Et après, il faut les acheter chez l'arabe. Et après, on les amène. Mais ceux qui les amènent n'ont pas le droit de gagner. Seulement, ils peuvent être payés. Par quoi? Pour son travail, il peut être payé. Donc, il y a chez les religieux, c'est marqué dans la Mishnah, Rambam, on fait Otsar Bedin. Le Bedin organise des ouvriers qui amènent et on les distribue. Maintenant, quand on les distribue, on n'a pas le droit de les acheter. J'ai le droit de recevoir gratuit. mais je dois quand même payer le travail des gens qu'ils ont transporté. Il a transporté ça, il faut payer. Pas midin business, midin le travail. Donc, le masbir qui regarde qu'on n'a pas travaillé ici, qui a organisé qu'on amène sur la voiture, qu'on amène ici, donc il faut s'inscrire. Donc, chacun qui s'inscrit dans son bedin, il paye une certaine somme et après, il a le droit de recevoir les fruits. Comme ça, on organise le Shemitah. Maintenant, on a le droit de les garder jusqu'à qu'il n'y a plus rien dans le champ. Quand il n'y a plus rien dans le champ, une minute, si c'est au bedin, je ne me rappelle pas. Si ça appartient au bedin, est-ce qu'on a le droit de les garder plus ou pas? Je ne me rappelle pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle dit ici, la Mishnah? On revient à notre Mishnah. Amolir perot shvit, un homme qui conduit les fruits de Shemitah, mimakom shekalu, d'un endroit en Eretz Israël shekalu, où c'est terminé, la récolte est terminée, où il n'y a plus rien dans le champ. Donc le zman biur est arrivé. Biur, donc d'après le Rambam, c'est brûlé. Et d'après le Rambam, biur, c'est les poser dans la rue. Il voyage et il a chez lui, j'ai des concombres dans ma poche. Et moi, j'habite dans un village au Galil, dans cette région. En octobre, il n'y a plus de concombres dans le champ. Donc, moi, j'ai deux bois de conserve, des concombres. Et je vais voyager à Beersheba. Et à Beersheba, les concombres, ils sont encore dans le champ. Alors, est-ce que Zezman Biur est arrivé à Molich Perotchvit? Il a conduit des fruits de Shemitah, Mimakom Shekal, ou d'une ville où c'est déjà terminé la récolte. Le Makom Shelokal, ou vers un endroit où c'est pas terminé. Ou, un autre cas. Mimakom Shelokal, ou le Makom Shekal, ou une ville où c'est pas terminé, vers une ville où c'est oui terminé. Chayav Levaer, il est obligé de faire le Biur. C'est-à-dire, il est obligé d'être à Mahmir. Soit la ville d'où j'ai pris ces fruits, soit la ville où j'arrive. Alors ici, ce n'est pas la coutume de la ville et ce n'est pas ma coutume. Je ne change pas où j'habite. Ces fruits, je les pris dans une ville où s'est terminée la récolte. Donc sur ces fruits, il y a un din de biour. Ce n'est pas ma personne. Dans la réiche, on parle de ma personne. Une personne qui habite dans une ville où on ne travaille pas la veille de Pessah. Où on travaillait la veille de Pessah. La définition, c'était je suis soumis à la coutume de la ville parce que j'habite dans la ville. Maintenant, ici, on parle de fruit. Le fruit vient d'un endroit où c'est calou, où le din de biour est arrivé, ou le contraire. Les concombres viennent d'une ville où il y a encore beaucoup sur le champ et on a transporté les concombres dans une ville où il n'y a plus rien. Alors, tu amènes ici, eh bien, il y a le din du biour. Ça, c'est une autre chose. Lisons la Rashi dans la Mishnah. Amolich perot shevit makom shekalu. Il conduit le fruit de Shemitah d'un endroit shekalu. C'est quoi kalu? C'est terminé. Pour qui c'est terminé? Le chaya. C'est terminé pour la chaya minasade. Les bêtes sauvages ne peuvent plus rien manger. Vachayavim bnei makom levahar al minabait. Donc, les gens du village sont obligés de me va'er minabait, ils doivent ressortir tout ce qu'ils ont stocké, ils doivent mettre dans la rue. Maintenant, il y a un monsieur qui a pris ses fruits. Il les a conduits vers un endroit, chez le calou, ce n'est pas terminé. Oubne otumakom. Alors, ochlin haknusim bebait, il les mange toujours. Alors, chayav le va'er, il est obligé de faire le bio. Mishum chumre hamakom, shiatsa misham. Parce qu'il doit être un machmir, comme c'est sur ses fruits, il y a la lacha pour se comporter avec le fruit, comme la ville d'où on a pris ses fruits.